Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
A rebel.
Pour ne pas faire changement, j'ai aucune idée quelle dette qu'on a, mais aujourd'hui, mon ami Cory mentionnait sur son réseau social que les dindons sauvages devaient marcher les pattes serrées un matin. J'en déduis que c'est le début de la chasse. Salut Guillaume.
Bonjour.
Tu nous opéreras toute cette émission. Je vais vous dire, il y a du monde demain qui vont tenir le volant serré aussi du côté de l'autodrome Chaudière parce qu'il y a des pilotes invités en piste pas piquer des verres. Puis moi-même, je vais vous dire, à titre d'animatrice radio, notre premier invité, il me fait serrer les pattes un peu aussi parce que en plus d'être un acteur extraordinaire, un comédien, un humoriste qui nous fait rire à tout coup, un homme de bon cœur, incroyable collectionneur, puis là j'en passe parce que je m'en garde pour l'entrevue. Vue, OK? Ben, en plus de ça, il y a 15 années, au moins, d'animation radio en arrière de la calotte. Je vais prendre mon trou et je laisse la place à M. Michel Barrette. Bonjour, M. Barrette!
T'es donc bien fin, tu fais ma journée. Le soleil est arrivé sur tes commentaires.
Hey, non. Oh, vous avez tellement... C'est vous qui avez fait mon bonheur d'accepter. Mais c'est vrai qu'on l'oublie, vous avez été animateur radio longtemps. C'est sûr que nous autres, on n'était pas dans votre patron de diffusion ici, dans le coin de Québec, mais vous avez fait ça longtemps.
Oui, 15 ans, dont 13 ans, c'est quoi? Un an à CKMF et un an à 98.
À gager que ça vous a réussi, parce qu'on dirait que quand je lis votre CV et tout ce que vous avez fait, à tous les coups, non seulement vous le faites bien, mais même, vous trouvez le tour de révolutionner dans chacun des domaines.
Ah, t'es donc bien fine.
Ben non, mais
non, c'est parce que je choisis toujours des projets que je vais aimer et que je vais avoir du fun. Et souvent, ils durent parce que j'ai du fun, parce que je me prends pas la tête, parce que je fais ça... Comme il faut que ça me ressemble. Et quand ça me ressemble, j'ai du fun, puis habituellement, ça marche.
Je vais vous dire ce qui m'est arrivé récemment. J'ai eu beaucoup de peine au décès de Jean Lapointe. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, 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 beaucoup. Puis j'ai réécouté À l'origine d'un cri. Pas que je sais pas comment ça finit. Pas que je sais pas qu'à chaque fois, ça va me faire broyer comme un veau. Mais ça, pour vous, là, c'est-tu le rôle d'une vie, le rôle que vous avez interprété là-dedans? C'est terrible. Je vais pleurer juste à y repenser. J'en ai la chair de poule.
C'est dommage. D'abord, c'est pas un film grand public. C'est un film qu'il faut voir. Parce que pour moi, c'est la plus grande... C'est ma plus grande fierté au cinéma. T'sais, j'ai eu la chance de tourner dans des séries. J'ai fait le policier, John Clamann, un homme mort. T'sais, c'était sympathique. C'est pas ça le fun de jouer au policier. Mais ça, c'est ailleurs. Ça, c'est autre chose. D'abord, le génie de Robin qui réalisait et qui l'avait écrit. Et la chance de jouer avec M. Jean Lapointe. Puis un film qui m'a touché beaucoup parce que j'avais une raison personnelle d'aimer ce film-là, parce que pour les gens qui ne sauraient pas c'est quoi, c'est l'histoire d'un homme qui perd sa femme et qui n'accepte pas le décès de sa femme et qui décide de déterrer le cadavre et de partir avec, parce qu'il veut la garder vivante. Et alors, c'est comme la somme de tous nos deuils qu'on transporte à l'écran. Alors, ça a été très personnellement, pas difficile, mais très... touchant pour moi d'interpréter ce personnage, et c'est encore ma grande fierté. Si on me demande Est-ce que tu as été acteur? Je vais aller voir celui-là, puis je pense que j'ai bien pensé.
Avec brio, non, je vous le dis. Puis, tu sais, je pourrais le réécouter à toutes les années jusqu'à la fin de mes jours. Il n'y a pas une fois que je pleurerai pas comme un veau. Puis, vous avez raison, c'est tellement porteur. Puis, tu sais, je veux dire, personne, on va se mettre à traîner quelqu'un qu'on aime, tu sais, après sa mort, puis à remplir des bains de glace pour essayer de le garder le plus longtemps possible. Mais, à quelque part, on sait tout ce que ça veut dire, puis à quel point un deuil, pareil, c'est des hauts puis des bas, puis on passe par toute une gamme d'émotions, tu sais.
Exactement. C'est exactement. Parce que lorsque j'ai fait l'audition devant Robin, qui m'avait rencontré d'abord, j'avais été un peu hypocrite, j'avais entendu parler du scénario, et j'ai dit à mon agent, écoute, je vais avoir une copie de ça, il y a quelque chose qui m'allume là-dedans, je reçois la copie du scénario, j'ai dit, il faut que ça soit moi. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Robin, mais pas un rendez-vous en disant, Michel, j'aimerais jouer dans ton film, juste un rendez-vous pour se rencontrer. On a parlé pendant des heures de n'importe quoi, la vie, l'enfance, l'adolescence, l'amour, la mort. Et au bout d'une coupe d'heure, il dit, bon, ben, écoute, il faut que je m'en aille. Alors, on s'est donné la main. Je suis parti vers la sortie du bar, on s'est donné rendez-vous. Il me dit, hey, by the way, il dit, j'ai un film qui s'en vient. Il dit, aimerais-tu faire l'audition pour le père dans mon film? Mais moi, c'est ça que je visais, tu sais, mais jamais j'aurais osé lui demander. Mm. Et j'ai fait l'audition. Puis après l'audition, écoute, tout le monde pleurait. Moi, lui, l'agence de casting. Et, il me dit, j'avais trouvé l'audition difficile au niveau des émotions. J'ai dit à la fille du casting, j'ai dit, est-ce que c'est terminé? Elle dit oui. Je ramasse ma veste pour m'en aller. Et il me dit, qui il faut que j'appelle maintenant? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, à qui d'autre veux-tu que j'offre le rôle maintenant? J'ai dit, es-tu en train de me dire c'est moi qui ai le rôle? Écoute, je me suis rendu à ma voiture, j'appelle ma femme, puis je pleurais. Elle dit, amour, c'est pas grave, tu n'auras un autre dans le film. Non, non, je pleure parce que je l'ai eu. Elle dit, pourquoi tu pleures si tu l'as eu? Oui, mais je dis, ah bon, je suis tellement content, ça n'a pas de mots de bon sens. Et pendant le tournage, Robin m'a demandé un jour, il dit, écoute, où t'es allé chercher ça? Où t'es allé chercher l'inspiration pour jouer ce personnage-là? Et là, j'ai raconté ma peine d'amour d'adolescence, ben, j'étais plus ado, j'étais au début de la vingtaine. Et pourquoi la perte de quelqu'un, qu'elle soit morte ou qu'elle soit morte dans ta vie, sortie de ta vie, là, ça représentait exactement ce que le film représentait. C'est pour ça que c'est là que j'allais chercher ça.
Est-ce que c'est pas... est-ce qu'on se surprend pas soi-même? Parce que, tu sais, dans le fond, nous autres, on s'attend toujours à ce que vous nous fassiez rire, M. Barrette, OK? Mais au cinéma, autant qu'à TV, je veux dire, dans votre rôle de Vandal dans Scoop, tu sais, autant que quand vous avez fait le père d'Alice Robbie, là, vous êtes comme à l'autre bout du spectre, tu sais, complètement. Là, vous êtes capable d'aller tellement loin dans le drame, à l'origine d'un cri, c'est ça, on peut pas aller plus loin que ça, tu sais. Est-ce qu'on se surprend pas nous-mêmes quand on est capable de se promener dans les deux extrêmes? De même.
Oui, on se surprend parce que d'abord, il faut aller chercher en soi, il faut que ça passe par soi. Et quand on le voit après, justement, le père d'Alice Robbie ou le père dans l'origine d'un cri, quand je le vois après, c'est comme si. Je vais dire une niaiserie. Moi, je sais que je peux faire rire les gens, c'est mon métier. Bon, ça ne me surprend pas si je me trouve drôle. Si je trouve une affaire drôle, ben je fais, écoute, c'est mon métier. Et quand je vois ça, l'acteur, c'est comme si je me voyais pour de vrai. C'est comme je dis, ah, en arrière du bonhomme, il y a aussi ça. Il y a aussi quelqu'un, tu sais, qui rit, qui pleure, qui a eu des bons moments, des moins bons moments dans sa vie, et qui a réussi à les transcender pour les transporter à l'écran.
C'est vraiment généreux, ça, de nous laisser voir l'autre bord de la matrice. C'est un cadeau, tu sais, que vous n'étiez pas obligé de le faire, mais je l'apprécie beaucoup. Je suis un peu en retard dans ma cinématographie québécoise. J'ai pas vu 23 décembre ni les 12 travaux d'Imelda. C'était-tu le fun, ça, à tourner avec Robert Lepage puis toutes les autres?
Oui, c'était super le fun. Ça, c'est autre chose, hein, parce que là, c'est vraiment, on s'amuse. Là, je veux dire, je suis pas allé chercher dans le fond de mes entrailles pour jouer. Mais c'est vraiment dans le gros fun parce que lorsque Martin Villeneuve nous appelle pour dire, écoute, j'ai pas de financement, si je veux vraiment produire mon film, mais alors on a tout fait ça gratuitement. Tu sais, quand t'as Robert Lepage et Ninette Renaud sur le même casting, tu te dis, ouais, c'est des gens qui ont dû croire au projet en tabarouette. Et alors ça, c'était une vraie partie de plaisir. On s'est pas arraché des trips, mais on a eu beaucoup de fun. Puis là, ça me permet de me défouler, parce que mon rôle, je suis un des fils d'Imelda, j'en peux plus de la bonne femme, là, tu sais, parce que t'as pas de maudit bon sens. Fait que c'est vraiment un rôle où tu te défoules, tu sais, tu fais, Ah, la tabarnouche. En même temps, on l'aime. Tu sais, on l'aime, Imelda. On l'aime, mais on l'haït en même temps.
Tout ouais, est mal à mais Imelda, là, juste que je cherche à quoi m'attendre quand je vais l'écouter, c'est ça que je vais vouloir le voir, OK? Parce que Martin Villeneuve, dans le fond, il interprète sa grand-mère. Donc, c'est Martin dans le rôle d'Imelda. Ça passe-tu bien à l'écran, ça?
Ça passe bien. Moi, Martin m'a envoyé un extrait de ce qu'il avait déjà tourné. Qui était un peu la prémisse de ce qu'allait devenir son film, qui présente d'ailleurs normalement avant le film. Il m'envoie ça, puis je dis, écoute, ça m'intéresse. Et je lui demande, j'ai dit, c'est qui la comédienne? De quelle comédienne tu parles? Ben, j'ai dit, Imelda, là. J'ai dit, c'est qui cette femme-là? Il part en rire, il dit, c'est moi. C'est toi qui l'as trouvé? Non, il dit, c'est moi. Comment toi? C'est lui. Il joue sa grand-mère. Je dis, non, c'est une drag queen avant son temps. Mais moins drag. Mais je veux dire, j'étais-tu sérieux? Il dit, oui, il dit, je connaissais beaucoup ma grand-mère, puis c'est quand même des heures de maquillage, puis de... Il marche comme Imelda, je l'ai pas connu Imelda, mais c'est à s'y méprendre. Si je vous dis pas que c'est une vieille madame interprétée par un homme qui est son petit-fils, ben vous le saurez pas.
Bon, ben, en tout cas, c'est sûr que j'ai le goût de le voir, OK? Imelda, je la connais pas, mais juste de voir Martin imiter sa boiterie puis de pouvoir apprécier, tu sais. Je me dis, si Anne-Marie Cadio, vous avez nommé Ginette Renault, j'ai nommé Robert Lepage, Antoine Bertrand et Yves-Jacques ont toutes fait ça gratuitement, c'est qu'il y a forcément quelque chose de particulier puis c'est du cinéma de genre qui est recherché.
Absolument. Et je ne vais pas rentrer dans les grands secrets, mais les gens ont tellement apprécié que je pense qu'il y a un projet de suite à toute cette aventure-là. Alors, si ça fonctionne, je pense que vous verrez un Imelda 2.
OK, bon, ben écoute, je creuse pas plus que ça. La prochaine fois qu'on se jasera, je pourrais vous amener ma critique, mais je le sais d'avance que je vais aimer ça. Comme j'aime beaucoup vos chroniques sur Salut, bonjour, tu sais, je suis tombée là-dessus l'autre jour, puis ici, dans l'émission, je parle régulièrement des Kennedy. Cette année, c'est le 60e anniversaire. Vous m'avez appris beaucoup de choses grâce à votre collection. Puis cette année, étant donné que c'est le 60e, je me demandais si, est-ce que les gens vont vous... Tu sais, on prend-tu contact avec vous pour des affaires que vous avez? Y a-t-il comme une espèce de regain par rapport à l'assassinat, étant donné que c'est comme une année anniversaire? Ou c'est cette année, c'est comme toutes les autres?
Non, c'est chaque fois, même chose pour Kennedy, même chose pour James Dean ou Marilyn Monroe. Lorsqu'arrive un anniversaire comme ça, mais chez des collectionneurs, il y a une espèce de mouvement. Là, tu reçois des offres pour des objets que tu possèdes, toi-même, tu fais des propositions à des gens qui ont des choses que tu aimerais avoir. Alors, moi, j'ai eu la chance, il y a donc maintenant 10 ans, d'être à Dallas le jour pour le commémorer l'assassinat de Kennedy. Et le hasard a voulu que je suis arrivé. D'abord, la veille de mon départ, il y avait un problème. Notre avion était cancellé. Et là, je disais à ma femme, mais non, ça n'a pas de bon sens. Il faut être là. Fait qu'on a réussi à trouver un autre vol qui nous a fait arriver à Dallas, à Love Field, le même aéroport où John Kennedy et Jackie sont arrivés à l'époque. On a embarqué dans une limousine pour se rendre au centre-ville. La radio locale repassait la bande originale de l'époque, tellement que je me croyais qu'à un moment donné, ils disent à la radio, « Actually, the motorcade turned left on Hemp Street. » Puis ça, ma femme, on va le manquer. Kennedy est au coin de la rue. C'est fou. Il dit au chauffeur, arrête ta voiture. On courait sur le trottoir avec nos valises. Et quand on est arrivé au coin du dépôt de livres, il y a le gouverneur de l'État de Texas qui a dit, at this moment, 50 years ago, John Fitzgerald Kennedy been shot dead. Là, les avions, puis moi, je me croyais. Mais je me croyais à un point tel que, bon, il y a eu l'événement. Le lendemain, j'ai fait à pied tout le trajet que Lee Harvey Oswald avait fait du dépôt de livres jusqu'à chez lui, aller chercher son revolver, se rendre au Texas Theater où il sera arrêté par les policiers, là où l'officier de Tepet a été tiré. Mais ça devient une folie, mais une douce folie, parce que un collectionneur, c'est pas juste de posséder l'objet qui te rapproche de la personne que tu admirais, mais aussi de repasser dans leurs traces. Et ça me nourrit beaucoup.
Oui, puis ça te permet aussi, tu sais, on dit souvent le diable est dans le détail, là. Tu sais, grâce à votre collection, en fait, moi, je ne savais pas que Jack Ruby était propriétaire du Carousel Club, puis vous détenez un contrat d'une danseuse, Tania, avec Jack Ruby. Oui. C'est incroyable.
Tu te souviens du nom de la danseuse, c'est bon. Tania, oui, c'est drôle.
Je trouvais que c'était un bon nom de danseuse.
Ben oui. Ce qu'on appelait sûrement du burlesque à l'époque, tu sais. Et oui, alors j'ai non seulement le contrat où Jack Ruby engage la danseuse, qui date de l'année d'avant, de 1962. Mais j'ai aussi Veston Pantalon de Jack Ruby qui m'a été vendu par Earl Ruby, son frère.
Son frère?
Qu'est-ce que j'ai? J'ai le compte-rendu de l'arrestation de Lee Harvey Oswald au Texas Theater, signé par les quatre policiers qui l'ont arrêté avec la description complète. Parce que même dans les livres d'histoire de Kennedy et de l'assassinat, c'est souvent des résumés. Mais là, c'est pas un résumé. C'est vraiment chaque action, la main sur le gun, qui a essayé de frapper, puis là, de... Alors, comme tu as dit, tout ça, c'est dans le détail qu'on trouve la vraie folie, puis de se rapprocher.
Mais vous comprenez que c'est une folie qui finira jamais. Au mois de décembre, quand ils ont décidé de libérer encore des documents secrets, on espère toujours qu'il y a quelque chose de plus qui va arriver. Chaque fois qu'Oliver Stone se lance un nouveau projet, on espère toujours qu'il va trouver quelque chose de nouveau. Puis, ironiquement, on finit par s'alimenter depuis 60 ans, pareil, avec les graines qu'on trouve par-ci, par-là. Au fil du temps, avez-vous adopté une théorie sur ce qui s'est passé ce journée-là?
J'ai bien de difficultés, parce qu'il y a tellement de théories qui ont été appuyées, chacun de leur côté, de manière différente, que si on pense, mettons, que ça vient de Cuba, ben il va y avoir, mettons, beaucoup de livres qui vont appuyer cette théorie-là. D'autres qui vont dire, mais c'est la CIA en accord avec Cuba. D'autres qui vont dire... Alors, j'ai pas encore mis le pied par terre en me disant, non, d'après moi, c'est absolument ça qui s'est produit. Mais ça restera un grand mystère, puis l'intérêt du mystère est là aussi. C'est que si demain matin, on apprenait tout, ben, on dirait, je pense que si on apprenait tout, on serait découragé de voir qu'est-ce qui se passait à l'époque, qu'est-ce qui se passe peut-être encore aujourd'hui aux États-Unis. Mais c'est pas si simple. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas aussi simple qu'un homme qui décide simplement d'assassiner un président. Ça serait trop facile.
Non, il y avait un environnement, là.
Ben, il y a un environnement, parce qu'à l'heure du soir, s'il avait tiré, il aurait prévu sa sortie. Tu sais, pourquoi il est sorti de là? Pourquoi il est allé chez lui, à la maison de chambre qu'il loue à l'époque, pour récupérer son revolver? C'est qu'après ça, je pense que c'est un homme de paille et qu'une fois que l'assassinat était fait, il fallait qu'il disparaisse. Et c'est pour ça, à mon avis, que Jack Ruby intervient. C'est pour ça, tu sais, Jack Ruby dira, j'ai tué Lee Harvey Oswald parce que je voulais pas que Jackie ait à souffrir d'un procès.
Ben, voyons donc. Jackie était droite, elle a gardé son veston avec les taches de sang dessus, là.
Et voilà. Alors, il y a vraiment anguille sous roche et depuis fort longtemps. Est-ce qu'on le saura? J'espère juste que si on a enfin un jour la vérité, ben, que je serai encore vivant pour dire, bon, enfin.
La prochaine fois, on se parlera de la pauvre Marilyn. Mais tout ça, là, tout ce savoir-là que vous avez, puis on jette Jack Kerouac qui fait aussi partie, tu sais, des hommes que j'apprécie, pas juste parce qu'il a écrit On the Road, mais aussi parce que son mot préféré, c'était ragout de boulette, puis je trouve ça cute, OK?
c'est drôle, parce que Jack Ruby qui sera, pour beaucoup, Jack Ruby, On the Road, sur la route, va avoir à quelque part lancé un mouvement de prendre la route, justement. Ce qu'on appellera plus tard le mouvement hippie.
Oui. Les beatniks ont donné naissance aux hippies. C'est tout le mouvement de liberté, c'est à partir de même, là.
Mais bizarrement, le premier qui va pas dénoncer, mais qui va rejeter le mouvement hippie, ça va être Jack Kerouac. Il va dire, il va prendre ça comme une mode. Il va justement dire, nous, les beatniks, qu'on avait comme quelque chose de plus profond.
Ouais.
Alors qu'on s'attendait à ce qu'il soit, lui, le premier à dire, ah oui, les jeunes ont compris mon message, ils ont pris la route et tatata. Donc, pas en tout. Il y a plus un verre de Jack Daniel de plus.
Oui, c'est ça. On est juste passé de l'alcool au LSD, là, finalement, dans cette transition-là. tout ça, là, ces connaissances-là, là, tu sais, puis cette fascination-là pour différentes sous-cultures, finalement, de l'Amérique, c'est-tu le genre d'anecdote que je retrouve dans votre livre Histoire vraie de chars, d'avions, de motos, de sièges bananes et de meurtres?
C'est drôle parce qu'il y a il y a 15 minutes, je remettais mon livre à mon barbier. Et quand je dis mon barbier, c'est un couple. Oui, mais c'est vraiment un couple à Sainte-Marie, en Beauce. Mais qui sont... Là, j'étais assis sur une chaise de barbier entouré d'objets d'une autre époque avec de la musique, de mélange de rockabilly et de vieux jazz. Et je remettais...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Mon livre, justement, à des gens qui sont pas de ma génération, mais qui ont comme compris quelque chose dans cette période-là et qui l'apprécient et qui font non seulement revivre, mais qui poursuivent.
Oui.
J'étais entouré de jeunes qui devaient avoir, je sais pas, 30 ans, peut-être début quarantaine, mais peut-être moins, et qui se faisaient faire la barbe et les cheveux, des looks comme mon père, comme mon grand-père et comme le mien au moment où on se parle. Alors ça, c'est pour moi, c'est beaucoup d'espoir. Et t'entendre parler de Jack Kerouac, de Kennedy, à la limite, on aurait pu parler bien sûr de Marilyn et de James Dean. Ben, ça me fait du bien parce que il y a quelque chose là dans le passé qu'il faut, je pense, chérir, trouver, revisiter.
Puis c'est parce que vous me le dites, là, puis savez-vous comment je les place dans ma tête? C'est sûr que Kennedy avait une sagesse, tu sais, qu'on retrouve pas en diplomatie internationale. Le mot paix avait une autre valeur dans sa bouche à lui.
Oui.
Mais tous ces gens-là, pour moi, c'est l'ivresse de la liberté.
Oui, bien justement. Je roule ce matin parce qu'il fait super beau avec une Oldsmobile 1956. Et quand je roule, là, les gens, ils sourient. Parfois, on pense que les gens nous sourient parce que ils font « Ah, c'est une belle voiture ». Mais ça dépasse ça. Les gens, ils sourient souvent parce qu'ils sont nostalgiques de cette période-là. Parce que quand j'arrête la voiture, je me suis marié là-dedans. Quand j'étais jeune, on allait à la plage dans une voiture pareille. Mon père, ma mère, puis là, on allait à la messe, puis tap, on allait à... Tu sais, il y a comme tout ce que ça transporte. Moi, mon amour des voitures, c'est pas l'amour des voitures. Tu sais, j'achète pas de Ferrari. Tu sais, j'achète le passé. J'achète le temps. J'achète la nostalgie. J'achète le fait que quand je roule là-dedans, les odeurs, le son, l'environnement est complètement différent de n'importe quelle voiture d'aujourd'hui. Aujourd'hui, une voiture, c'est pour aller du point A au point B, ben, c'est tout. Mais une voiture d'une autre époque, c'est vraiment une autre époque qui bouge et qui avance et qui vit encore.
Ouais, pis c'est toute la beauté de se promener sur le chemin l'été, je veux dire, sans les vieux chars, je veux dire, il n'y a pas de magie d'un SUV blanc, là, tu sais.
Non. Non, mais tu sais, quand je parle d'odeur, là, si tu embarques dans une voiture des années 50, les tissus d'époque, l'isolation d'époque, les tapis, c'est une odeur différente d'aujourd'hui où tout est en plastique, t'sais. Alors, c'est vraiment... Tu sais, parfois, là, mettons, on fait une tourtière dans le temps des fêtes. Ah, ça me rappelle quand j'étais jeune dans le temps des fêtes, ma grand-mère faisait une tourtière. Mais c'est juste l'odeur. Alors, la mémoire olfactive est très puissante. Mais dans l'automobile, c'est la même chose.
Mais vous avez raison. Il fait bon sentir qu'il va rester quelque chose à cette époque-là, qu'il y a une portion de la population qui le tient en vie. Moi, j'appartiens à des groupes de pin-up en devenir. C'est très beau de réapprendre à se faire les coiffures. Vous parliez des voitures, les trims de métal. Vous êtes allé faire le grand bonheur d'un couple d'amis à moi chez Ric Autosport l'autre fois à Robertsonville. La chance qu'ils ont eue de vous recevoir, je vous le dis, là, c'est comme vous savez pas comment vous les avez fait plaisir, puis certains que vous étiez étonnés de voir qu'un si beau garage pouvait être amené par des gens si jeunes pour des voitures qui ont été créées quand ils n'étaient pas nés.
Ben oui, justement, parce qu'il y a une beauté là-dedans. Il y a tout le discours, je comprends très bien qu'on est aujourd'hui, on essaie de pousser les voitures électriques, on essaie de sauver la planète, je suis 150% d'accord avec ça. Mais comme cette période-là, elle a existé, et c'est pas 3-4 vieilles voitures sur la route qui vont polluer la planète. On sait pas de ça tous les jours. Là. Mais c'est comme un... Pour moi, c'est comme un tableau vivant. Vraiment, un tableau vivant. Parce que quand tu traverses... Je sais pas, mais tu sais, je vois souvent aux États-Unis, les Américains ont souvent... Ils ont bien des défauts, mais il y a une chose qu'ils ont peut-être plus que nous autres, c'est qu'ils conservent les choses. C'est-à-dire, ils vont pas mettre du tabac d'aluminium sur une maison de 1920. Qui fait que souvent, quand je traverse des petits villages, peu importe, dans le Vermont, mais en Californie, n'importe quoi, ma voiture, on dirait qu'elle se transporte dans le temps. C'est comme si d'un coup sec, on revenait en 36 ou en 40 ou en 56. Puis j'écoute juste la vieille musique dans ces vieilles voitures-là. Alors, c'est comme si le temps arrêtait, puis que tout ce que je regarde autour, combien de fois je dis à ma femme, j'arrête la voiture quelque part. Je dis, mon amour, ce que tu vois là, tout ce que tu vois autour, n'a pas changé. Alors, ma voiture s'inscrit dans le paysage. Si tu prends une photo, tu as en noir et blanc, ben, tout le monde penserait qu'on était de 12 ou 58.
Respectez-vous toujours l'année de votre véhicule pour la musique? Parce que là, vous prenez dans votre camper Glendale 87. Écoutez-vous les années 80?
Les années 80, moi, je suis le premier. Écoute, ben, ma femme est plus jeune que moi. Ma femme est plus jeune que
belle,
moi.
Belle, votre blonde, c'est terrible. Ah, j'ai vu, joyeux anniversaire. J'ai vu vos photos cette semaine à Saint-Jean-Port-Joli où vous mangez des hot dogs. Ça aussi, c'est de la nostalgie. Maudit, vous étiez beau.
Ben, merci. Mais elle est plus jeune que moi. Alors, pour elle, les années 80...
C'est ses années.
Moi, je n'ai pas arrêté de dire, ouais, mais pas, c'était pas une mienne. À chaque fois qu'elle tourne des années 80, j'étais, oh, wow, je suis bien en tout cas, t'es place. Oh, wow. Elle dit, oh, ouais, le gars qui aime pas les années 80, elle, tu connais toutes les tunes, tu te rappelles plein d'affaires. Mais en même temps, c'est un beau mélange des deux. Mais dans mes voitures, je ne roulerai pas en Oldsmobile 56 en écoutant YouTube. Tu comprends?
Oui.
Je vais essayer d'être le plus près possible de la période où la voiture a été construite. Tu sais, c'est parfait d'écouter toute la musique qui est sortie de Woodstock dans une Camaro 69 parce que t'es pile dedans. Tu dis, mettons, tu venais d'acheter ta Camaro, t'es allé à Woodstock, t'es sorti de là, puis là, tu t'es à tête pleine de Janis puis de tous ceux qui ont... Mais quand j'avais la maison de mon grand-père à Scrutiny que j'avais remis à l'époque, tiens-toi bien, le rez-de-chaussée était années 50 jusqu'à 67, et le sous-sol, ma chambre d'ado, était de 67 à 74. Il était hors de question que je fasse jouer sur le stéréo en haut du Led Zepp parce qu'il n'avait pas en 52 du Led Zepp. Alors, c'est un peu balade, là, mais il fallait que
ça soit... c'est le décorum!
Ben oui, sinon, ça n'a pas de bon sens. Tu peux pas rentrer à t'asseoir devant tes grands noirs et blancs en écoutant Stairway to Heaven.
Hey, mais dis-moi donc, je suis pas rien qu'un problème. Moi, j'ai des voitures des années 80, vu que c'est mes années, OK? Mon Chrysler Cordoba 82, le lecteur de cartouches ne fonctionne plus. Pensez-vous que c'est réparable à quelque part, ça?
J'aimerais trouver quelqu'un de mon âge qui joue là-dedans. Mais c'est sûrement réparable parce que tout était tellement moins compliqué. Parce que dans les vieilles voitures, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de cochonnerie. Ce qui fait que c'est encore très électrique et mécanique. Alors, normalement, c'est un problème qui se réglerait facilement. Contrairement, justement, moi, mettons, là, les gens me rencontrent avec mes vieilles voitures. Ben, ils disent, là, ils tournent en rond. Non. T'embarques, tu rentres dans mon garage, tu pointes n'importe quelle de mes voitures, tu dis, on s'en va à Los Angeles.
Ça part. Beaucoup...
Non seulement ça part, mais c'est fiable. Les gens, ils croisent à Key West ou à Los Angeles avec une vieille voiture, ils disent, vous l'avez fait envoyer par transport? Non, je me suis assis dedans, j'ai tourné la clé, et je suis descendu. Là, voyons donc, avec un vieux char, c'est pas un vieux char, c'est un char neuf de 1956. Voyons, parce qu'il n'y a pas d'électronique. Si tu tombes en panne avec une voiture actuelle, tu fais rien, tu ouvres même pas le capot. Tu appelles la remorqueuse, tu envoies ça chez le concessionnaire, ils vont brancher ça sur une machine, la machine va dire au mécanicien, ben voici le problème, il y a un sensor qui a lâché, je sais pas quoi. Alors qu'à l'époque, là, une paire de pinces, un peu de broche, puis tu ouvres le capot, qu'est-ce que tu veux qui brise? Il n'y a rien là-dedans. Un carburateur, une batterie, un alternateur, puis quoi? Il n'y a rien. Fait que tu peux pas avoir de gros problèmes parce qu'il n'y a pas d'électronique. Il n'y a rien là-dedans. Alors, vive la simplicité. C'est beaucoup plus... Les voitures d'aujourd'hui sont plus fiables, c'est-à-dire qu'ils vont rouler plus longtemps sans avoir de problèmes mécaniques ou électroniques, mais quand il y en a un vrai. Alors que nous, on a juste à les entretenir, les vieilles voitures. Entretenir une vieille voiture, c'est comme entretenir un vieux monsieur comme moi. C'est juste dire qu'il est beau, qu'il est fin, puis il va rouler longtemps.
Ouais, ben demain, il va se prendre pour une jeunesse pareille, puis j'ai hâte de voir ce que vous allez rouler demain, parce que demain, c'est l'Enduro des Érables 300 du côté de l'Autodrome Chaudière, puis on a le bonheur de recevoir l'équipe Racing Barrette. Vous allez rouler quoi demain?
Moi d'abord, il y a mon fils. Ça fait 7 ans cette année qu'on fait de la course ensemble avec mes fils.
Ça a-tu commencé au Grand Prix de Trois-Rivières, ça, en Sentra? Tu même, ça a commencé votre affaire?
Oui, ça a commencé. Ben, moi, j'ai fait de la course à différents moments de ma vie. Je faisais du stock car quand j'étais flo. J'ai fait mes écoles en Formule 2000. J'ai pris la petite sorte de patente. J'ai été invité à faire plein de patentes. Mais quand mes fils ont eu l'âge de faire de la course, j'ai dit, on va s'inscrire là-dedans pour le plaisir d'être tous les trois sur la piste. Là, cette année, il y a un changement. Nicolas s'en va faire une autre saison en Santa, parce qu'il va absolument gagner le championnat. Martin s'en vient ici en Beauce, lui, pour faire du NASCAR Truck.
Wow, il va aimer ça.
Et, oui, ben on a fait des essais déjà, puis ça vient.
Non, mais c'est une belle série en soi. Les compétiteurs sont fiers, ça roule oui. bien. C'est vraiment, oui. c'est une série légendaire, je dirais. Hein. Tu sais, je veux dire, on a toujours hâte de les voir en piste, là.
Puis ça ressemble à son caractère à Martin. Moi, l'an passé, j'ai roulé en Porsche vintage. Fait que moi, le nostalgique, je vais plus être là-dedans. Mais demain, dans le fond, c'est pour s'amuser. Parce qu'il va y avoir comme 50 voitures en piste.
50? Ouais. T'as pas, là? Moi, je suis déjà rendu passer 70.
Ça veut dire que le premier va être dans le pare-choc du dernier.
Ça veut dire que c'est trop de monde pour un petit ovale banqué. C'est ça que ça veut dire, M. Borrette.
C'est le genre d'événement qu'on faisait quand j'étais flou à Saint-Félicien dans le temps. C'est vraiment pour le fun. Je sais pas quel minute ils vont me passer. Je m'en fous. Ça va juste pour être un plaisir d'être assis au volant puis d'être... des barrettes en piste, puis avoir du fun.
Ça va être... Mais là, vous êtes mieux de travailler de concert ensemble, parce que vous allez voir que, pour le reste, il y a beaucoup de chaos en piste, là, parce que vous êtes bien au courant qu'il y a certains chars qui tiennent avec du tie-wrap puis du duct tape, là.
Ben écoute, si je te racontais comment est-ce qu'on faisait les courses au Lac Saint-Jean à l'époque, on achetait les chars à 200$, on les roulait dans la rue pour se rendre au pit de sort, puis on se faisait un rond de course, puis on virait ça sur le top, puis... Fait que ça va me rappeler mes 17 ans.
Oh, on retourne à l'autodrome Saint-Félicien, finalement, demain, là.
Oui, le tourne Saint-Félicien, mais avec un peu plus d'âge, mettons.
Bon, ben gars, de toute façon, nous autres, on va souhaiter se reparler demain parce que moi, je fais les interviews sur le podium. Fait que vous allez souhaiter me rejaser. Ça veut dire que vous avez fait une bonne position si on se reparle, là.
Oui, mais dans le fond, là, moi, ce que je retiens de demain, c'est pas vraiment de rêver de ce podium. Ça, on rêve ça en vraie course, là. Mais c'est d'avoir du fun. Puis je pense que pour les spectateurs aussi, ça va être hot. Parce que d'avoir autant de voitures, ça veut dire qu'il va y avoir de l'action. Bien sûr, il va y avoir des accrocheurs, des voitures tout de travers. Je pense que le fun va se trouver.
Non, puis vous allez voir, tu sais, je lisais justement dans votre parcours en course automobile, là, tu sais, qu'au début de tout, là, votre premier char, il a failli avoir le. Je pense que c'est le Saint-Hubert, l'oiseau sur le dessus, là. Vous allez voir demain, il y en a avec des lumières de police, puis de toutes sortes d'affaires d'accrocher sur le char, là.
Ah, j'ai hâte de voir ça. Ça va être un carnaval de tôt, fois-ci.
Oui, mais là, on est chanceux dans le bout parce que la semaine prochaine aussi, vous, hommes de bon cœur, vous faites un spectacle bénéfice du côté de Sainte-Marie. Là, on est encore dans votre tournée de spectacle L'humour de ma vie, qui se passe très bien, beaucoup trop pour être la dernière tournée de spectacle. En quoi celui du 5 mai est bénéfice comparativement aux autres?
Bien, c'est qu'habituellement, je gagne ma vie à faire des spectacles. Sauf que cette fois-là, j'ai dit, je veux pas de cachet. Vendez vos billets, gardez l'argent, puis remettez-le à la cause. J'oublie le nom. Je suis pas bon, là.
C'est donné au suivant.
Donné au suivant, mais le professeur qui m'a rejoint, qui était le professeur qui enseignait à mon fils l'an passé à Polyvalente à ici à Sainte-Marie, m'a dit, écoute, on a une fondation où j'oublie le nom. Ces gens-là s'occupent à chaque année d'aider des gens qui sont dans le moyen. Alors, j'ai dit, écoutez, parfait. Vendez vos billets. Moi, je veux pas une scène. Je vais être sur scène. Et je suis content, justement, parce que je suis un privilégié dans la vie. Je suis chanceux de faire mon métier et que les salles soient pleines depuis 40 ans. Alors que je puisse monter sur scène en me disant ce soir, non seulement je vais faire rire les gens, mais ça va aider des gens. Ben, ça c'est vraiment un
plus. Oh, vous êtes-tu adorable? Donc, c'est au Centre Castel de Sainte-Marie. C'est vendredi prochain, si vous voulez y aller. Évidemment, la tournée de spectacle se poursuit partout. Vous allez être à Saint-Victor également. Là, je nomme les salles dans le bout. Le 17 juin, vous revenez à Québec également le 17 septembre. On se prend d'avance si on veut avoir des billets. Ça, c'est s'il en reste d'avance. Je veux juste vous dire, Michel Borrette, que je vous aime beaucoup, comme tout le monde, OK? Puis que je suis fière que vous alliez au bout de toutes vos folies. Puis durant le confinement, vous avez eu comme une bulle au cerveau, puis vous êtes retombé dans les cartoons, puis moi, j'aime beaucoup les dessins de Lucien.
Ah, Lucien, oui. Ben ça me permettait... D'abord, pendant la pandémie, j'ai des chums comme Lise Dion, comme Peter Metard, des Morissette, qui ont dit, ah non, nous, on veut pas aller faire des choses dans des gens qui ont des masques, ça va être compliqué, et je respecte leur décision. Mais moi, j'ai tellement besoin de raconter, j'ai tellement besoin. J'ai dit, même s'il y a deux personnes dans la salle là, avec des masques, je vais y aller pareil. C'est ça que j'ai donné 153 représentations durant la pandémie de mon show, parce que je me disais, j'aime ça. Moi, j'y vais parce que j'aime ça, radoter, je suis fatiguant. Au moins, si je fais ça sur scène, ben, c'est moins d'envers de mes voisins. Fait que, ce qui fait que mon show, il est rodé en tabarouette. Et quand les salles, maintenant, sont... C'est qu'on a eu le droit de remplir les salles avec des gens sans avoir de masque et tout, là. C'est vraiment, là, je suis en Cadillac.
Oui, en Cadillac. C'est nous autres qui sommes en Cadillac. Je rappelle que demain, vous serez du côté de l'Autodrome Chaudière, que vendredi prochain, on va vous voir du côté de Sainte-Marie. Traînez-moi un livre demain, s'il vous plaît. Histoire vraie de chars, d'avion, de moto, de siège banane et de meurtre. Je vais me traîner un petit rouleau d'argent.
Okay. Ben non, tu ne le payeras pas, mais je vais te le signer. On va prendre une belle photo.
Oh, ça va me faire de la belle lecture à part de ça pour notre prochaine conversation. Encore une fois, un très joyeux anniversaire.
C'est gentil.
OK. Puis le plus souvent possible. Du Michel Barrette, c'est juste la bonne énergie. Puis là, ben, en fait, je l'ai prévu d'avant. Je ne sais pas si vous allez aimer mon choix, mais je pensais qu'on se quitterait, c'est Jackson 5.
Ah,
oui,
c'est bon. C'est
je vous aime. Parfait. Bonne journée, à demain.
C'est gentil, merci.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.